Aujourd'hui à l'émission, Florence Malenfant nous parle de l'accueil d'un enfant handicapé dans sa famille et Simon Lessard nous propose une petite théologie biblique du handicap. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et culture. Ici Antoine Malenfant dans nos nouveaux studios à Québec et j'ai le bonheur d'être accompagné de nos trois chroniqueurs. Ariane Beauferré, bonjour.
Salut Antoine.
Simon Lessard, salut.
Bonjour Antoine, très content de te retrouver.
Pareillement. Et Benjamin Boivin, bonjour.
Salut Antoine.
Aujourd'hui, à l'émission, on parle de l'accueil et de l'intégration des personnes handicapées dans nos communautés. Mais avant de plonger directement dans notre sujet, Ariane nous a préparé un petit topo sur la question d'où ça vient, le mot handicap.
Alors, ça a une origine anglaise. On est au 17e siècle et il y avait un jeu de hasard dans lequel on allait disposer dans un chapeau, donc a cap, et différents objets de différentes valeurs. Et avec la main, on allait, chacun des joueurs allait piger au hasard un objet qu'il pouvait emporter. Donc, c'est hand in cap, handicap. Par la suite, ça a été réutilisé aussi dans les compétitions hippiques. Puis là, le sens du mot a vraiment dérivé. Quand un cheval était jugé trop fort, on allait lui donner un handicap. Donc, il allait devoir porter un poids supplémentaire ou faire une distance supplémentaire pour que finalement, tous les chevaux aient une même égalité des chances de réussir la course.
C'était des jeux inclusifs.
Oui, tout à fait, on peut dire ça, égalitaire.
Là, on est au...
Là, on est en 19e siècle en France. Donc, on est parti du 17e, 19e. Deuxième moitié du 20e, le handicap, ça a été utilisé dans le milieu médico-social. Ouais. Et c'était pour parler des notions d'infirmité. Et donc là, il y a tout un tas de mots qu'on n'utilise plus vraiment. Donc, inaptitude, impotence, invalidité. Tout ce qui allait finalement évoquer une perte, une faiblesse, on englobait ça dans la notion de handicap. Et c'est une notion qu'on a gardée aujourd'hui, c'est celle de désavantage, en fait, de mise en infériorité. On parle d'un désavantage social, c'est utilisé aussi notamment la notion de personne handicapée. On a des définitions dans les lois. Par exemple, on pourrait citer celle du Québec, c'est toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Donc c'est un peu long, mais il y a deux mots à retenir en fait. C'est déficience d'abord et incapacité ensuite. Déficience, c'est tout ce qui va être, ça peut être visible. Donc ça peut être j'ai un bras en moins, ça peut être une anomalie, ça peut être une déficience mentale visible, ou alors ça peut être aussi invisible. Ça peut être psychologique ou physiologique. C'est pas forcément visible en fait cette déficience. Mais c'est pas le simple fait d'avoir une déficience, c'est que cette déficience, elle va entraîner une incapacité.
Ah voilà, parce que là, toi, t'as une certaine déficience. Là, je te vois me regarder avec tes lunettes.
J'ai des lunettes. Je suis myope. Mais je ne suis pas handicapée parce qu'à partir du moment où je porte mes lunettes, je peux conduire, je peux aller au cinéma, je peux en faire toutes les activités dites normales du quotidien. Ouais. Alors qu'une personne handicapée, elle va avoir une déficience, mais on ne peut pas forcément la traiter ou on ne peut pas mettre des lunettes comme moi. Donc, par exemple, quelqu'un qui souffre du syndrome de Down, qu'on appelle aussi la trisomie 21, il y a des déficiences mentales, il y a des déficiences cardiaques, il peut y en avoir des hormonales aussi. Et on n'a pas forcément de traitement pour ça. Et donc ces personnes,
on n'a pas de lunettes pour ça.
On n'a pas de lunettes pour contrer le syndrome de Down. Et donc ces personnes vont rencontrer des obstacles au quotidien pour simplement, face à ces situations de handicap, c'est finalement de retirer les obstacles dans la société et dans l'environnement pour mieux les inclure et que chacun puisse avoir finalement une vie semblable aux autres.
Simon, je te voyais réagir.
Oui, je me demandais juste si quelqu'un a un bras robotisé, je ne sais pas, ou une prothèse comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas vraiment handicapé parce qu'il y a une prothèse comme tes lunettes?
Ça peut être le cas. C'est-à-dire que si sa prothèse ne l'empêche plus de faire aucune activité dite normale, comme faire de la cuisine, je ne sais pas moi, avoir un emploi, se déplacer en voiture, s'il est capable avec sa prothèse, dans ce cas-là, le handicap, la déficience, elle est toujours là. On ne peut plus lui redonner son bras.
Mais il n'y a plus de situation de handicap.
Il n'y a plus de situation de handicap parce qu'il va y avoir toujours le regard des autres, bien sûr. Et il y a, par exemple, même moi, si j'enlève mes lunettes, je ne sais pas moi, elles se brisent pendant l'émission, je vais me retrouver en situation de handicap parce que je vais plus pouvoir rentrer chez moi en conduisant.
On essaiera plus tard.
C'est ça.
Quand tu fais de la natation, certaines activités sont quand même plus
Exactement, difficiles. Oui. Ça peut être handicapant, mais pas tout le temps. Ou alors, je ne peux pas devenir pilote de chasse, par exemple, parce que je n'ai pas une assez bonne vue. Mais il y a des handicaps qui sont plus gros que d'autres.
Oui, évidemment. Merci beaucoup, Ariane. C'était très instructif. Alors, on accueille maintenant notre invitée du jour, Florence Malenfant. Alors, c'est Malenfant, bonjour.
Allô?
Alors, bienvenue à On n'est pas du monde. Tu es mère de 6 enfants.
Oui, bientôt 7.
Bientôt 7, donc déjà mère de 7 enfants, on pourrait dire. Et ils sont tous différents.
Oui.
Il y en a une qui est plus différente que les autres, là, parce que...
Parce que c'est une
fille. C'est la seule, la pauvre. Hein, c'est la sixième,
la sixième, oui.
Mais il y en a un autre aussi qui a une différence assez marquée.
Oui.
Il est porteur d'un handicap. Il vit avec un handicap.
Oui, c'est Cyril, le cinquième, qui est né avec une malformation qu'on appelle le spina bifida.
Mm. Et il a quel âge environ?
Il a 2 ans et demi.
OK. Oui. Alors, Cyril, bon, est arrivé dans votre famille il y a 2 ans et demi, mais vous avez su avant qu'il naisse, je pense, cette situation-là.
Oui.
Raconte-nous, Florence, comment ça s'est passé? Comment vous avez appris la nouvelle et comment vous avez réagi?
En fait, on allait à une échographie de routine pour vérifier si tout était correct.
Mm-hmm.
Puis tout n'était pas correct.
Mm-hmm.
Alors, le médecin est arrivé très vite après l'évaluation du technicien pour nous informer que notre bébé avait une malformation importante au niveau de la colonne vertébrale. Ça affectait le développement de son cerveau. Puis que, dans le fond, c'était une situation assez grave là, qui nécessitait qu'on aille en suivi, en grossesse à risque, en génétique. Puis elle s'assurait qu'on ait le suivi dans un autre hôpital. Puis elle nous laissait comme avec cette nouvelle-là. Donc.
OK. Alors, vous avez tout reçu ça
en 5 minutes.
Poire, en quelques minutes. Oui. Puis on vous laisse à vous-même jusqu'au prochain rendez-vous.
Vous allez avoir un appel pour pour voir la suite des choses.
Alors vous rentrez à la maison
un peu sous le choc. Ouais. On est allé, en fait, en premier, on est allé voir la sage-femme.
Parce que vous aviez un suivi sage-femme.
On faisait un suivi sage-femme à la maison de naissance. Uh-huh. Puis elle nous a accueillis. Puis là, on était un peu déboussolés. Là. On ne savait pas trop où se placer par rapport à cette bombe qu'on venait de recevoir. Mm-hmm. C'est sûr que moi, j'ai eu le temps de poser une question au médecin qui nous a annoncé la nouvelle. Pour moi, je voulais savoir rapidement si c'était une condition qui était viable ou pas, parce qu'on a perdu un enfant en fin de grossesse il y a quelques années. Puis pour moi, c'était comme... c'était le scénario que je ne pouvais pas envisager. Je ne pouvais pas revivre ça. Puis quand elle m'a dit oui, elle a hésité un peu. Puis elle a dit oui, c'est viable. Alors, pour moi, à partir de ce moment-là, j'ai été quand même rassurée. Mais en même temps, ça restait gros parce que aussi, c'était de l'inconnu. On ne savait pas trop. Ça avait l'air très grave, là, selon ce qu'elle nous disait. Mm. Puis, donc, on est allé voir la sage-femme.
Avec ton mari, là.
Avec mon mari, oui. Elle nous a accueillis en nous disant qu'elle serait là pour nous, là, même si elle se sentait bien impuissante, elle aussi, par rapport à cette nouvelle-là.
Parce qu'à partir de ce moment-là, les sages-femmes ne peuvent plus faire le suivi. Tu te trouves à être en grossesse à risque.
Exactement.
Alors là, arrive le deuxième rendez-vous.
Oui, quelques semaines plus tard, 1 semaine et demie plus tard, on a rendez-vous avec le généticien.
C'est assez de temps pour que tu marines là, dans tes idées.
Oui, que j'ai le temps de faire des recherches. OK, j'ai le temps de de lire un peu plus,
m'informer. C'est quoi le spina bifida, Florence?
Le spina bifida, c'est, dans le fond, c'est lors du développement du bébé, du fœtus. C'est très tôt, là, autour de la 12e semaine que ça se passe, que le tube neural, la colonne vertébrale, ne se referme pas comme il faut. Donc, ça laisse un trou. Il y a plusieurs types de spina bifida, là, plusieurs degrés, ouais, si on peut dire. Puis, donc, Cyril, lui, a le degré le plus grave, le plus sévère, qu'on appelle un myéloménagocèle, où sa colonne est complètement ouverte, puis, dans le fond, du dos sort la moelle épinière, les méninges aussi. Puis, dans le fond, c'est ouvert, là. Il n'y a pas de peau qui recouvre ça. Il y en a où la peau est recouverte, il y en a où ça ne sort pas complètement. Puis il y en a même qu'il y a un trou dans le tube, dans la colonne vertébrale, mais on ne le voit pas. Puis c'est un spina bifida occulta. C'est assez commun. En fait, le spina bifida, c'est la malformation de la colonne qui est la plus commune. Là. Il y a beaucoup de monde qui ont ça.
Sans même s'en rendre compte.
Oui.
Ah ouais. Mais
Cyril, lui, on s'en est rendu compte assez vite. Là.
Alors, vous arrivez à ce rendez-vous-là pour faire le suivi.
Oui, exactement. Nous autres, on pensait avoir comme un topo général là, de ce que ça impliquait. Mm-hmm. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que le généticien nous a présenté des scénarios assez dramatiques là, de ce qu'allait être notre enfant, de ce qu'allait pas être notre enfant non plus, avec des statistiques assez traumatisantes, là, je dirais. Là. Voilà. Donc, il nous faisait la liste là, du pire scénario, en fait. Ouais. Parce que le spina bifida, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui ont cette malformation-là, qui ont les mêmes symptômes. Donc, on l'appelle la maladie du flocon de neige, là. La malformation du flocon de neige, parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Mmh. Fait que nous, ce qu'on nous a exposé là, à cette rencontre-là, c'est le pire scénario du spectre. Là.
Le flocon
de neige le plus magané, avec le moins de branches. Puis, on nous a dit aussi que dans 99 % des cas, les parents avortaient dans notre situation.
Est-ce que c'est une pensée que vous avez eue à un moment donné?
Absolument pas. Jamais. On a été vraiment en communion dès le début, mon mari et moi, là, sur cette question-là. C'était sûr pour nous qu'on accueillait cet enfant-là, qu'on voyait d'ailleurs comme déjà comme une bénédiction. Là.
Pourquoi?
Parce que nous, on était en démarche pour adopter un enfant handicapé. Avant ça, des démarches qu'on avait commencées une ou deux années plus tôt. Pourquoi un enfant handicapé? Parce qu'on avait l'impression que c'était ce à quoi le Seigneur nous appelait, puis que voilà, que ce serait bien pour les enfants, puis pour nous, dans le fond, de voir la faiblesse, mais surtout comment Dieu se manifeste là-dedans, dans notre famille.
C'est pas nécessairement une malédiction.
Non, exactement. Mm-hmm. Donc, voilà. Puis là,
ouais, vas-y.
Du jour au lendemain, sans paperasse, sans DPJ, on avait un enfant handicapé qui nous tombait dans les bras, littéralement. Ouais. Là. Fait que...
Comment ont réagi les frères et sœurs? Il y avait quel âge, les plus vieux?
Le plus...
Les pas frères et sœurs, les frères?
Oui, les frères, à l'époque. Ouais. Ben, le plus vieux avait 7 ans, 6 ans.
Assez vieux pour comprendre ce qui
se passait. Assez vieux pour comprendre, mais comme... Quand on a commencé les démarches d'adoption, j'avais commencé à leur en parler de c'était quoi, le handicap. On est allé visiter aussi Louise Brissette, mais je pense qu'elle, on l'a vu un peu plus tard, après le diagnostic.
OK.
Mais pour les mettre en contact, là, parce Brissette, que Louise Brissette, qui a une grande famille, elle a adopté une trentaine d'enfants handicapés.
Qui est à Saint-Anselme, dans Bellechasse, là,
exactement.
Dans les Etchemins.
Donc, on est allé la voir, les enfants ont pu être en contact, mais aussi, c'est sûr qu'il faut dire que mon beau-père, lui, il est paraplégique depuis 30 ans.
Le père de ton mari?
Le père de mon mari, quadraplégique. Il est en fauteuil roulant, puis pour nous, pour les enfants, dans le fond, c'est pas... Il n'y a rien de choquant là-dedans, ça fait partie du personnage. Puis, dans le fond, il n'y a pas de malheur là-dedans non plus. C'est un homme qui est heureux de sa situation, de sa vie.
Même ton mari l'a pratiquement
Mon mari l'a presque toujours vu comme ça aussi.
Donc, ça faisait la vulnérabilité ou, disons, parce qu'il y a une certaine dépendance aussi dans le fait de vivre avec un handicap. C'était pas quelque chose qui était complètement inconnu pour votre famille. Là, vous avez cette rencontre-là où on vous expose tous les scénarios. Pour vous, c'est évident que vous allez de l'avant avec cette grossesse-là. Vient le moment où le bébé
Le bébé naît, vigoureux, comme un guerrier. C'était pas du tout le scénario auquel les médecins s'attendaient. Uh-huh. Mais, voilà. Il était assez bien pour que je puisse le prendre un peu, ce qu'on pensait pas possible. Mm. Puis là, il est parti rapidement. Il s'est fait opérer dès le lendemain pour refermer la plaie qu'il y avait dans le dos.
Ouais.
Pour éviter les infections, tout ça. Puis, après ça, il est resté 10 jours en néonatologie, ce qui est franchement pas beaucoup. Puis, de retour à la maison avec plusieurs suivis, là, évidemment, de différents professionnels de la santé. Mm-hmm. Mais voilà, Cyril grandit, puis il s'épanouit. Là.
Je me demande, Florence, en t'écoutant, déjà, tu as beaucoup d'enfants, beaucoup de parents pour qui ils s'imaginent avoir beaucoup d'enfants, ça doit être déjà difficile d'ajouter un enfant handicapé. Est-ce que c'est pas venu vous en mettre trop sur vos épaules? Comment est-ce que ça l'a changé, votre dynamique familiale?
Ça m'a demandé,
sans que ce
c'est
soit
une bonne question.
Juste négatif, ouais. Là, disons.
Bien, ça m'a demandé d'être plus organisée, je dirais ça. C'est sûr qu'on a beaucoup de soutien aussi, là. On a beaucoup d'amis proches, la famille, mes parents, mes beaux-parents sont proches, sont présents, sont prêts à aider beaucoup, là. Donc, pour le gardiennage, c'est sûr que ça aide. Mais oui, l'organisation, ça a été la clé, là. Puis j'ai mon agenda qui... Il faut pas que je perde, là, pour tous les suivis, mais ça s'est fait assez... de façon assez organique, là, je dirais.
Ça a créé comme une entraide, de ce que je comprends, de
oui.
La famille et de la communauté autour
oui,
de
oui,
toi.
Oui, oui, vraiment, vraiment. Puis tout le monde était... Dans le fond, à partir du moment où nous, on a annoncé le diagnostic, les gens voulaient surtout savoir comment nous, on se sentait par rapport à ça. À partir du moment où on a dit « on le garde puis... », puis on est content de l'accueillir, cet enfant-là, bien, tout le monde a partagé notre joie puis notre attente là, de le voir aussi.
Dans le personnel soignant aussi?
Le personnel soignant, ça a été un peu plus compliqué. Là. Ça dépend de qui, je dirais. Il y en a qui ont été très réticents, qui ont insisté beaucoup pour qu'on mette fin à la grossesse. Puis, mais il y en a quelques-uns qui ont été plus accueillants là, quand même. La gynécologue, entre autres, qui a été plus curieuse, là, je dirais, là, une belle curiosité là, qui se demandait un peu...
Vous étiez un peu exotique.
Oui, c'est ça. Ah ouais, OK, pourquoi? Parce qu'après ça, aller voir en avoir d'autres. Puis non, c'était vraiment... C'était intéressant, ça amenait à des discussions que je pensais pas avoir avec elle. Puis depuis qu'il est né, Cyril, le personnel avec qui on travaille est extraordinaire. Vraiment. Mm.
Il doit avoir... On pourra reparler peut-être ouais. De la réadaptation, tout ça, mais tu disais ce qui intéressait les gens, c'est de voir comment vous viviez
oui.
Ça. C'est un peu ça le sujet de l'émission aujourd'hui. On veut savoir comment l'entourage d'une personne handicapée peut adapter l'environnement ou accueillir le mieux possible, intégrer ces personnes-là dans nos communautés, dans nos familles.
Ouais.
Qu'est-ce que ça a demandé comme adaptation? Tu dis que tu es plus organisé, mais d'un point de vue peut-être très physique ou même mental, psychologique,
ouais.
Spirituel dans votre organisation familiale.
Oui, il y a des ajustements. Il n'y a pas eu d'ajustement physique encore à faire là, dans la maison parce qu'on a une grande aire ouverte. Puis là, Cyril, il se déplace en marchette. Mais il n'y a pas de corridor, là, c'est assez, les cordes de porte sont assez larges. Éventuellement, on va devoir mettre une rampe, là, probablement, à l'entrée, mais pour l'instant, ça va. Il est encore assez petit aussi pour qu'on puisse le prendre dans nos bras là,
ouais,
pour
ouais.
Les déplacements plus longs.
Quand il va avoir 15 ans.
Quand il va avoir 15 ans, on demandera au plus vieux.
Parce que moi, je suis capable d'avoir eu plein de gars.
Exactement, oui, ouais, vraiment. Les adaptations qui ont été les plus marquantes, je dirais, c'est au niveau de la gestion du temps, là, vraiment. C'est pas juste... si j'ai un rendez-vous, ben là, justement, il faut que je prévoie le temps de marchette entre le stationnement puis le bureau du médecin, qui est comme de une demi-heure, même si normalement, c'est 5 minutes en poussette, t'sais. Fait que là, il faut que je le prévoie. Ces choses-là, si on va au parc, ben là, faut qu'on prévoie une plus longue marche. Mais en même temps, ça s'est fait assez naturellement. Ben moi, pour moi, moins que pour les enfants, je dirais, là. Parce qu'eux autres, ils sont très impatients d'aller au parc, ils sont contents, on y va. On habite à 200 mètres du parc. Là, tout à coup, ça prend plus 5 minutes y aller, mais ça prend 45 minutes. Fait que ils font des tours, des allers-retours en vélo, ils viennent nous rejoindre, mais ils tournent autour.
T'arrives au parc, c'est le temps de retourner.
Ils annoncent les craques de trottoir plus proéminentes.
Attention.
Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est en fond, c'est surtout ça qui a demandé de l'adaptation.
Uh-huh. Ouais. C'est la patience
oui,
aussi.
Oui, la patience. Ben, ça va avec l'organisation, la gestion du temps,
uh-huh.
Je dirais, là.
Est-ce qu'à son âge, Cyril est conscient qu'il est différent de ses frères et sœurs ou des autres enfants?
Cyril est conscient de plus en plus des limites de son corps, je dirais. Mais je pense pas qu'il est conscient que ça diffère des autres.
Il a quoi, là, 2 ans et demi?
Il a 2 ans et demi, mm-hmm. Il va avoir 3 ans dans quelques mois. Il se compare pas encore. C'est surtout ça, là. Des fois, il est fâché contre ses pieds parce qu'il ne reste pas à la bonne place. Ou bien, il sait, tu sais, qu'il sait comment descendre les marches. Il va me demander quel escalier peut descendre debout, quel escalier non. Puis souvent, je lui retourne la question, puis il sait, il est vraiment conscient de ses limites, puis il les gère très bien. Mais de là à dire, cet enfant-là, son grand frère peut courir, puis pas lui, pas encore. Il voit sa petite sœur commencer à marcher, puis il la trouve vraiment bonne. Puis il me dit, oh, regarde, maman, Hélène marche. Mais pas ça plus que pas ça, là, ça le rend pas triste. Là, il trouve ça vraiment chouette, puis il la trouve très bonne, en fait, mais sans se comparer.
Un moment ou un autre de tout ce processus-là, à partir du moment de l'annonce du diagnostic jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est un événement, Florence, qui a ébranlé votre foi ou qui vous a questionné? Pourquoi nous? Pourquoi moi?
Je me suis posé cette question-là, mais pas dans le sens qu'on pense.
Vas-y.
Moi, je me suis demandé pourquoi nous, au sens où je me sentais indigne à un certain moment. En fait, je comprenais pas pourquoi le Seigneur nous avait choisi nous, pourquoi il nous faisait ce cadeau-là. Mais si ça a fait quelque chose au niveau de ma foi, c'est que ça l'a renforcé, vraiment. Moi, je vivais une crise de foi depuis quelques années, après avoir perdu quelques bébés en grossesse. Où j'avais vécu ces événements-là comme des événements d'injustice, beaucoup. Comme une victime un peu de ma vie. Là, le doigt de Dieu s'acharnait sur moi. Puis quand on a eu le diagnostic, dans les semaines après, j'ai vraiment vécu comme une reconversion, là, je dirais, où je me suis sentie aimée de Dieu. C'est comme si j'arrivais à relire les années précédentes à travers le regard d'amour de Dieu, puis comment il nous préparait, en fait, par ces événements-là, à l'arrivée de Cyril dans notre vie. Où on avait pu goûter la valeur de la vie, là, en la perdant. Puis, dans le fond, moi, ce que je me faisais... Les grossesses après avoir perdu François, le bébé qu'on a perdu à 37 semaines, les gens demandent tout le temps, « Ah, c'est-tu un garçon ou une fille? » Puis là, je disais, « Un autre garçon, parce qu'on a eu plusieurs garçons après. » Puis là, les gens étaient vraiment déçus pour moi. Là, je ne sais pas pour quelle raison, mais les gens étaient très déçus pour moi. Puis ils me disaient, « Ah, tant qu'il est en santé. » Puis moi, je disais... Je répondais toujours, tant qu'il est en vie. C'est ça que je disais. Puis la grossesse de Cyril, les gens me disaient, tant qu'il est en santé. Puis j'étais comme,
il n'est pas
vraiment en santé. Ça faisait un malaise, mais c'était vraiment délicieux. Ouais, vraiment. J'avais ma revanche.
Florence, est-ce qu'il y a des moments où... Ben forcément, où on se projette dans l'avenir. Où, là, on parlait tantôt quand il va avoir 15 ans, un peu à la blague, mais est-ce que vous luttez contre cette tentation-là? Ou est-ce, ben, je dis tentation, mais je pense que ça peut en être
une. Oui,
là,
ça peut en être une.
De se projeter dans le futur, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce que nous, on va devenir par rapport à lui. Toi, comme mère, comment tu vis ça?
Oui, ça m'arrive... De moins en moins souvent, je dirais. Là, en fait, ça vient par vague de me projeter, mais il faut vraiment que je lutte contre ça parce que souvent, c'est une occasion pour moi de devenir triste. Là, parce que c'est plus facile de se projeter dans des scénarios tristes, ou difficiles, d'incapacité ou de différence, justement, de ses frères à tel âge, de stade que je me dis du développement, est-ce qu'il va vivre ça comme les autres? Comment ça va aller dans le vestiaire à l'école? Quand il va se changer? Il va-t-il avoir des commentaires? C'est sûr qu'on lit aussi des histoires. Dis-moi, j'ai rejoint quelques groupes, tu sais, de soutien ou de parents. De parents ou de personnes en situation d'handicap aussi. Puis là, il y a des parents qui s'inquiètent, qui posent des questions par rapport à des situations que vivent leurs enfants. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, est-ce que Cyril va être confronté à ça? C'est sûr que pour moi, le fait qu'il soit entouré de frères, c'est quelque chose qui me rassure, parce que je me dis, il va se faire défendre, mais en même temps, la réalité, c'est que je pense pas qu'il va avoir tant besoin que ça de se faire défendre. Je pense qu'il va... Dans le fond, mon rôle, c'est aussi de l'éduquer, lui, à mettre ses limites, puis à parler pour lui. Puis à éduquer les autres aussi, dans le fond. Tu sais, il peut... Ça se dit, les choses se disent, là. Il y a une façon de les dire, mais s'il y a des situations où les gens posent des questions ou sont trop indiscrets ou sont... Je sais pas, là. Il y a une façon de dire les choses aussi pour éduquer les gens. Parce que souvent, les gens, c'est juste qu'ils savent savent pas, tu sais. Puis c'est plus du malaise que de la méchanceté, souvent. Mais en même temps, ce qui m'aide là-dedans, c'est de me rapporter à tout ce qu'on nous annonçait pendant la grossesse, qui s'est pas avéré, ou qui s'est avéré, mais différemment, dans le fond, puis que... qui s'est avéré, puis que... Cyril le gère très bien, tu sais. Oui, ses jambes sont pas super droites, puis il marche drôle, puis... Il y a d'autres soucis aussi, mais ça ne le limite aucunement. Donc, puis même si ça le limitait, ben il apprend d'autres choses aussi par ça. Tu sais, dans le fond, faut juste pas que je me concentre sur ce qui peut aller mal. Comme tout le monde dans toutes les situations, comme avec n'importe quel enfant.
C'est ça, j'allais dire. Ouais.
Comme avec n'importe quel enfant, c'est sûr que si je regarde ma fille et je me dis, l'adolescence, tu sais, ça va être quoi? Ben oui, c'est sûr. Mais l'adolescence d'Hélène m'inquiète plus que l'adolescence de Cyril dans les faits. Là.
Ça va être aussi terrible que toi?
Je sais pas.
Merci infiniment, Florence, d'avoir pris le temps
Ça me fait vraiment plaisir.
De témoigner de ton rôle de mère dans l'accueil de Cyril dans ta famille.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
Benjamin Boivin, tu as des bonnes nouvelles pour les personnes vivant une situation de handicap. Non seulement c'est pas un obstacle, mais ça peut même être un tremplin vers le ciel. Tu as des exemples à nous donner.
Ben oui, tout à fait. Il y a plusieurs saints dans l'histoire de l'Église qui avaient des handicaps, et certains d'entre eux qui en avaient des assez sévères, en fait. Là. Et d'ailleurs, à toutes les époques de l'histoire de l'Église, on peut penser d'abord à quelqu'un comme le bienheureux Hermann de Reichenau. Donc lui, il a vécu au 11e siècle. Il est mort en 1054 à l'âge de 41 ans. Il avait une fente palatine, une paralysie cérébrale, il y avait le spina bifida ou peut-être une amyotrophie spinale. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il ne marchait pas. Mais par ailleurs, c'était un grand intellectuel. Il a construit la première astrolabe d'Europe. On lui doit d'ailleurs la composition du Salve Regina et du Alma Redemptoris Mater. Donc, vraiment pas un deux de pique.
C'est pas rien, ça. C'est quand même des chants que...
C'est des compétences variées.
Tu probablement va chanter jusqu'à la fin des temps.
C'est ça. Donc, il était non seulement un saint, mais aussi une personne qui a contribué à la culture occidentale jusqu'à nos jours.
Fascinant. Rappelle-nous son nom. Hermann?
Hermann de Reichenau.
Alors, Saint Hermann, priez pour nous. Vraiment un chic type.
Oui, pas pire.
un autre saint vivant une situation de handicap dans l'histoire de l'Église.
Je peux vous parler de Sainte Marguerite de Castello, qui est morte à 33 ans en 1320. Donc, elle avait plusieurs problèmes. Donc, elle avait une syphose, là, c'est-à-dire une bosse dans le dos. Elle avait les jambes de différentes longueurs. Elle était très petite. Elle était aveugle. Donc, ça, c'est vraiment... une combinaison, on peut dire, gagnante. elle a fait l'objet d'une canonisation équivalente très récemment. Là, okay. C'est le pape François qui l'a canonisée en 2021. Puis elle, en fait, la grande douleur de sa vie, la grande peine de sa vie, c'est qu'elle a été rejetée par ses parents. Là. On sait qu'à l'époque, là, des handicaps de ce genre-là, c'était souvent vécu comme une honte dans la famille, dans la communauté. Donc, elle a été rejetée, cachée par ses parents. Éventuellement, en fait, elle s'est ramassée dans un monastère avec des moniales féminines qui l'ont également rejetée. C'est comme si sa présence dans le monastère faisait ressortir le péché en elle, puis elle n'était pas appréciée.
C'était dur à tolérer.
Elle a été rejetée par les moniales également, donc il a fallu qu'elle pardonne et ses parents et les moniales. Puis elle a fini comme tertiaire dominicaine, en fait. Et puis c'est une grande sainte qui a beaucoup pardonné et beaucoup souffert.
Fascinant, quelle vie édifiante malgré toutes ces embûches. Peut-être un petit dernier, Benjamin.
Bon, ben on passe du Moyen-Âge à l'époque moderne, là, puis on passe de l'Europe à la Corée. Alexis Kim Siu, donc lui, il a vécu au 19e siècle, il est mort en 1815. Lui était paralysé du côté droit de son corps. Donc, sa condition était quand même peut-être un peu moins grave, mais ça faisait quand même en sorte qu'il était impossible pour lui de travailler ou même de se marier. Et puis, à l'époque où il vivait en Corée, il y avait très peu, voire pas de prêtres. Donc, pour les quelques chrétiens qu'il y avait là, c'était des laïcs comme lui là, qui cherchaient à évangéliser. Et puis, lui, éventuellement, avec un groupe de chrétiens, là, bien, il a fait l'objet d'une arrestation, mais plusieurs chrétiens ont été arrêtés. Puis, lui, c'est comme s'il avait été ignoré par la police. Donc, il a fait « Hey, comment ça se fait que moi, je suis pas dans la gang, là? Puis, est-ce que c'est parce que je suis handicapé? » Il a été arrêté lui aussi. Il a été mis en prison.
C'est l'inclusion jusqu'au martyr, c'est ça?
Oui, exactement. On peut parler d'une inclusion assez radicale. Et puis là, on lui a même brisé la mâchoire en prison pour qu'il arrête de proclamer l'Évangile parmi les prisonniers. Et comme il était sévèrement handicapé, il était impossible pour lui de travailler pour gagner son pain, ce qui était le cas des prisonniers avec lui. Donc, il est éventuellement mort de faim à 33 ans, sans avoir pu travailler.
Quelle héroïcité. Ouais, rappelle-nous son nom, qu'on puisse prier.
Alexis Kim Si-yu. Et lui, c'est l'un de très nombreux martyrs coréens. Donc, il a été canonisé dans un groupe là, de Allô. Martyrs. Et puis, il y en a eu d'autres depuis.
Merci infiniment, Benjamin.
Ça fait plaisir.
On a parlé de la situation de handicap, de l'accueil des personnes handicapées dans nos familles, dans nos communautés. Mais Simon Lessard, une question me taraude.
Ah oui? Laquelle?
Est-ce qu'il y a des personnes vivant une situation de handicap dans la Bible?
Qu'est-ce que vous en pensez ici sur le plateau
aujourd'hui? Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. Quel nom vous viendrait spontanément comme personne avec un handicap dans la parole de Dieu?
Tous les lépreux déjà, dans les évangiles.
Lépreux, oui, c'est vrai.
Les paralytiques.
Les paralytiques, les aveugles, les muets, les estropiés, évidemment.
Il y a Moïse aussi qui bégayait, je pense.
Exactement, c'est très intéressant, Ariane, que tu révèles ça.
C'est une bonne gang, dans le fond.
Oui, une bonne gang. Moïse bégayait, puis quand tu es appelé à être prophète, c'est quand même un bon handicap.
C'est une situation très handicapante.
Évidemment, c'est pour ça que je pense qu'il y a un peu douté au début de sa mission. Je pense à David par rapport à Goliath, c'est-à-dire qu'au sens strict, il n'avait pas un handicap physique ou mental, mais disons, pour le combat, on peut dire qu'il y avait un handicap sportif assez grand, un retard, on pourrait dire, pour le combat avec Goliath.
Il aurait fallu que Goliath se mette à genoux ou commence le combat assis, peut-être.
Peut-être, oui, pour être plus égal.
Ouais, c'est ça.
Ça aurait été une bonne idée, mais ce n'est pas ça qui est arrivé dans l'histoire.
Non, ça finit bien quand même.
Oui, quand même. Il a utilisé une sorte de prothèse, un slingshot qu'on appelle en bon français. Sinon aussi, je pense à Samson, par exemple. Samson, il était fort, donc on ne penserait pas à lui comme personne handicapée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est devenu aveugle. Et c'est au moment où il est devenu aveugle qu'il a réussi à terrasser ses ennemis.
Qu'il est devenu faible, qu'il est devenu fort.
Exactement. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, c'était Saint Paul, exactement. Et je pense que, en fait, si on relit attentivement la Bible n'est qu'une histoire de personnes avec des handicaps et Dieu passe à travers leurs faiblesses. Et c'est évidemment pourquoi, parce qu'on voit mieux que c'est Dieu qui agit et non l'homme. Lorsqu'on passe à travers une personne qui porte une faiblesse, toute la gloire est rendue à Dieu. Donc oui, et dans le Nouveau Testament, comme vous l'avez bien mentionné, hein, Jésus se penche particulièrement vers les petits, les faibles, les malades, les pauvres. N'oublions pas que la pauvreté, l'exclusion sociale, c'est une forme d'handicap aussi qui nous empêche de faire plusieurs activités dans la société.
J'aimerais ça qu'on s'attarde un petit peu sur le personnage du paralytique.
Oui, fascinant.
Dans l'Évangile de Marc, Simon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
Oui, beaucoup de choses. Déjà, la scène du paralytique, c'est chapitre 2 de Marc. Hein, si vous avez suivi la série de Chosen, il y a un épisode qui le montre bien. C'est spectaculaire comme scène. On est dans une synagogue, c'est rempli de gens. Les gens veulent se rapprocher de Jésus, mais la foule est trop compacte. Et voilà que quatre amis ont le souci de rapprocher de Jésus leur ami paralytique.
C'est des bons chums, ça.
Oui, puis ils vont jusqu'à monter sur le toit, faire un trou, le descendre. Écoute, ça devait être incroyable.
Il n'y avait pas de rampe dans ce temps-là.
Non, il n'y avait pas de rampe d'accès, exactement. D'ailleurs, sur ce point-là, le pape François a fait un point dernièrement pour dire que c'est bien beau les rampes d'accès dans les églises, là, mais il dit l'inclusion, ça doit aller beaucoup plus loin que ça. C'est d'inclure comme membre à part entière de la communauté. Je pense qu'une des premières leçons qu'on doit tirer de cet évangile du paralytique, c'est jusqu'où moi je vais pour rapprocher de Dieu les gens qui m'entourent, qui sont en situation d'handicap. Jusqu'à quel point je peux être persévérant, tenace et même créatif pour les aider à être plus près de Jésus, à avoir accès aux sacrements, à la catéchèse et à toute la vie de la communauté chrétienne. C'est vraiment un premier exemple de ça.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas juste un ami qui le fait, mais c'est une gang d'amis. Alors, il y, y a un aspect communautaire.
Il y a un aspect communautaire aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, Antoine, c'est comment Jésus accueille ce paralytique-là. C'est même un peu provocateur. Hein? Il dit d'abord, tes péchés sont pardonnés. Il dit pas d'abord, tu es guéri. Mais d'abord, il va dire tes péchés sont pardonnés. Éventuellement, on sait, il va le guérir aussi. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Que Jésus, quand il regarde une personne handicapée, il voit son désir le plus profond. Et il sait que le désir le plus profond de cette personne-là, c'est pas d'être comme tout le monde, d'être normal, mais c'est d'avoir la communion avec Dieu, la communion avec les autres. Et qu'est-ce qui est le pire de tous les handicaps pour réaliser ce grand désir-là, bien, c'est le péché. Et donc, Jésus vient guérir son handicap le plus profond d'abord, et ensuite, il va guérir son deuxième handicap, où il voulait sûrement être guéri aussi de sa paralysie, mais toujours au service du véritable bonheur de l'homme qui est la communion.
Il y a un autre passage célèbre dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, où il est question d'une autre forme de handicap.
Oui, bien, on connaît au chapitre 9 de l'évangile de Jean, le fameux chapitre où c'est question de l'aveugle né. Et je pense, je vois dans tes yeux, Florence, que c'est un évangile qui semble te plaire ou te parler.
C'est l'évangile qu'on avait choisi pour le baptême de Cyril.
Ah oui? Oui. Bon, très bien choisi. Oui. On peut en parler, justement. Dans le fond, cet évangile-là va à la racine de toutes les questions qu'on peut se poser, spécialement que peuvent se poser les personnes avec un handicap. Hein? Pourquoi je suis différent? Pourquoi je souffre? Pourquoi moi? Hein? On en a parlé tout à l'heure. D'où est-ce que ça vient? C'est la faute à qui, au fond? Et c'est ça un peu, hein, au début, les gens questionnent Jésus, Rabbi, Maître, qui a péché, hein, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et on connaît la réponse célèbre de Jésus, hein, ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui.
Impossible de ne pas penser à un reportage qu'on a diffusé récemment dans le magazine Le Verbe, où on présentait le témoignage d'une jeune femme qui vivait en Iran avec un bras et une jambe en moins, et qui citait exactement cet évangile-là. Elle s'appelle Zahra Gomari. Je vous invite à lire ce témoignage-là sur leverbe.com. Elle dit « Pourquoi je vis avec cette condition-là pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers moi? » C'est quand même assez impressionnant de lire son histoire de cette manière-là.
Oui, c'est une réelle conversion du regard sur le handicap. Plutôt que de regarder le passé, les philosophes diraient la cause efficiente, qu'est-ce qui a produit mon handicap, le manque en moi. On regarde l'avenir, le futur,
un
regard d'espérance. C'est ça, non pas à cause de qui je suis handicapé, mais pour qui ou pourquoi. Parce que si Dieu l'a permis, c'est certainement pour en tirer un plus grand bien, parce que là, on plonge dans tout le mystère le plus profond du christianisme, le mystère pascal de mort, de résurrection ou de croix glorieuse.
Parce qu'on nie pas que c'est souffrant ou que c'est une croix pour
exactement,
ces personnes-là.
Mais on croit dans la foi que s'il y a un mal en ce monde, dans ma vie, dans mon corps, dans mon esprit, c'est certainement, comme dit saint Augustin, parce que Dieu va être capable d'en tirer un plus grand bien pour moi, mais plus grand bien aussi, éventuellement, pour les autres autour de moi.
Parlant des autres, du point de vue communautaire, là, qu'est-ce que ça représente tout ça, Simon?
Alors, il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est dans la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Vous savez, c'est quand il nous parle du corps du Christ. Il prend l'image du corps avec plusieurs membres. Et à un moment donné, saint Paul, je ne sais pas s'il y a un peu d'humour, mais en tout cas, il y a beaucoup de génie, il dit « Les membres du corps qui sont tenus pour les plus cachés ou les plus faibles, alors je vous laisse deviner c'est lesquels, sont absolument nécessaires. Hein? » Ils sont nécessaires, entre autres, pour la vie.
Ouais.
Ils sont vraiment importants. Et pourtant, ce sont les plus fragiles et les plus faibles. Bien, en fait, là, saint Paul est en train de nous dire, dans votre famille, dans votre communauté, qui sont ces gens les plus fragiles et les plus faibles? Eh bien, ils sont non seulement nécessaires, mais peut-être même les plus nécessaires. Parce que, comme on l'a vu avec les personnages bibliques au début, bien, c'est probablement à travers eux que la grâce de Dieu, le salut va passer davantage encore. J'imagine que tu l'as vu un peu dans ta famille, Florence, comment la grâce a pu passer à travers Cyril?
Ben oui, c'est sûr. Moi, ça me fascine de voir toutes les discussions, en fait, que son arrivée a suscité là, autour de nous, même dans des milieux pas catholiques ou pas croyants. Ça soulevait beaucoup de questions que Cyril arrive dans notre famille. Puis beaucoup de remises en question aussi de la part des autres. Ouais, c'est ça. Donc, beaucoup de, aussi beaucoup de, d'entraide. De, on voit vraiment que les gens sont touchés là, juste par sa présence.
Parce que quand il fait le 200 mètres entre la maison et le parc, là, que ça lui prend trois quarts d'heure, il y a le temps de croiser quelques passants dans le village.
C'est quasiment une mascotte. Là. Chez nous, les gens sortent sur leur perron pour le saluer, pour dire qu'on
a un petit... Oui, tout le monde, ça le ralentit.
Le 45 minutes, ça inclut son handicap, mais ça inclut aussi...
Est-ce que ce passage de Saint-Paul-là nous amène aussi à réfléchir une autre forme de conversion du regard? C'est pas juste qu'on est appelé à aider, à accompagner ces gens-là, mais c'est qu'on a aussi besoin d'eux. Il y a une réelle interdépendance. Donc, on doit avoir un souci mutuel, Saint-Paul va dire. Si un seul membre du corps souffre, tout le monde souffre. Mais si aussi un membre est à l'honneur, tout le monde est à l'honneur. Voyez, il y a même aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec ça, mais le Conseil œcuménique des Églises, qui est un regroupement de plusieurs communautés chrétiennes, qui, elle, a proposé dans tous ses documents officiels de changer le mot « handicapé » par « personne aux potentialités différentes », dans le sens de regarder la différence de la personne, non pas seulement du point de vue négatif, comme un manque, mais aussi comme une occasion, un plus pour peut-être autre chose que les autres n'ont pas.
Mais est-ce que ça invisibilise pas un peu la réalité du handicap, d'utiliser des formules alambiquées comme celle-là?
Bon, c'est vrai que, je ne sais pas si tu veux
devoir hocher la tête. C'est une opinion
aussi
que je partage, vraiment.
Ben, y a une dimension de croix qu'il ne faut quand même pas nier dans la vie humaine.
Exactement.
Donc, ce serait peut-être une certaine critique.
Oui, puis c'est aussi que c'est une partie de leur réalité là, d'être handicapé, ces personnes-là. Puis si on l'évacue, ben en fait, c'est comme si on évacue une partie de leur réalité, de leur souffrance, de leur combat. Dans le fond, il faut nommer les choses. Je pense qu'il faut être capable de nommer les choses. C'est un mot neutre, un handicap, être handicapé. Après ça, c'est ce qu'on en fait. Mais à la base, c'est pas un mot qui est connoté. Là. C'est un mot qui décrit une réalité concrète.
Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Il ne faut pas enfermer la personne non plus dans son handicap.
C'est ça.
Derrière l'handicap, il y a une personne
pas,
riche.
Mais ça aide, dans le fond, à décrire une partie de la réalité.
Qu'est-ce que dit... tu as dit le Conseil œcuménique, là, c'est un regroupement de différentes églises, mais je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a des documents officiels de l'Église? Est-ce qu'il y a eu des prises de parole des papes dans l'histoire de l'Église sur cette question?
Il y en a eu plusieurs, surtout depuis Jean-Paul II. Je pense qu'avant, évidemment, ça traverse toute l'histoire de l'Église, mais on utilisait plus maladie, pauvreté, d'autres formes de mots. On a vu que quand même l'origine du mot handicapé est assez récente là, dans l'histoire, donc c'est normal aussi que ce soit plus récent dans les documents de l'Église catholique. Très intéressant, je vous conseille de trouver sur Internet le discours de Jean-Paul II aux handicapés. Et non seulement c'est intéressant à cause du contenu, mais savez-vous où a été prononcé ce discours-là? Non, c'est une bonne tentative de réponse, mais c'est ici même, à Québec, à 1 ou 2 kilomètres de nos studios, au centre François Charon. On sait que durant sa visite au Canada en 1984...
Un institut de réadaptation.
Exactement, un institut de réadaptation. Et il a fait un discours aux handicapés. Il y a beaucoup d'idées intéressantes et à contre-courant dans ce discours-là du pape Jean-Paul II. Il dit, par exemple, que la souffrance, elle n'est pas absurde ou inutile. Quand elle est unie au Christ, elle peut vraiment devenir une puissance de transformation pour le monde entier et non pas pour simplement la personne qui souffre. Il va dire aussi, le pape Jean-Paul II, que au fond, la vie chrétienne, la vie surnaturelle de foi, d'espérance et de charité n'a pas besoin d'un corps parfait. Hein, pensons ne serait-ce qu'aux personnes âgées. Hein, et leur corps n'est plus aussi bon que dans la vigueur de la jeunesse. Et même au contraire, que souvent, cette vie de foi et de grâce va passer, va se fleurir davantage à travers nos faiblesses. Donc, ça peut même être un avantage pour la vie chrétienne. En fait, c'est un avantage.
C'est assez provocateur, en effet.
Assez provocateur. On sait que le plus grand obstacle à la vie chrétienne, c'est l'orgueil. Bien, peut-être que le handicap peut nous aider à grandir plus vite.
Ça nous rappelle nos limites humaines en permanence, finalement. Donc, on ne pense pas qu'on peut tout réussir par soi-même, puis qu'on a besoin, finalement, de la grâce pour être sauvé.
On peut moins s'illusionner, enfin, sur nos capacités.
Et le pape termine en disant qu'on mesure la qualité, la valeur d'une société à sa capacité ou son respect envers les personnes les plus faibles de tous ses membres. Et il a des paroles assez fortes, je vous les cite. Il dit « Une société techniquement parfaite Alors, ça, c'est en 84, mais l'empire de la technique a grandi.
En 1984.
Ben oui, exactement, depuis. Donc, cette société qui se prétendrait techniquement parfaite, dans laquelle seuls sont admis les membres pleinement productifs, devrait être considérée comme radicalement indigne de l'homme, pervertie par une sorte de discrimination non moins condamnable que le racisme. Donc, vraiment, et je ne sais pas ce que vous en pensez, avez-vous l'impression que notre société progresse ou régresse dans l'inclusion des personnes handicapées?
Je pense qu'il y a un progrès réel là, qu'il faut souligner. Moi, je vois que, par exemple, dans mon village, il y a un changement de toutes les infrastructures. Là. Ils ont reçu une subvention, puis toutes les infrastructures municipales sont maintenant adaptées aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'était pas le cas avant. Puis il y a des subventions qui sont offertes du gouvernement pour ça, pour favoriser l'accessibilité aux lieux. Je vois aussi...
Parce qu'une petite municipalité n'aurait peut-être pas les moyens.
Non, exactement.
En tout cas, ça serait un choix politique un peu difficile à faire.
Puis je pense qu'il y a un mouvement d'inclusion générale là, des minorités ou des marginalisés qui inclut les personnes handicapées. C'est sûr qu'on en parle moins que d'autres marginalisés.
En même temps, tu as rapidement proposé l'avortement et même fait un peu de pression pour aller dans ce sens-là.
C'est sûr. C'est sûr. C'est un discours...
C'est l'inclusion de ceux qui sont déjà là, finalement.
Voilà.
Mais c'est ça, tu parlais tantôt, tu disais que avant la naissance de Cyril, on t'a tenu ce discours-là. Oui. Et puis après, tout d'un coup, on t'a donné un soutien quand même de qualité.
Ah oui, vraiment, là, que je pensais pas avoir. Je pensais pas qu'on pouvait avoir autant de support, de soutien.
C'est un grand paradoxe. Ouais.
Cette dualité-là, entre d'un côté et l'autre, de la frontière de la naissance, c'est quand même intéressant.
Bien, tu vois, il y a aussi le fait de... Parce qu'il y a une aide gouvernementale pour les familles qui accueillent un enfant handicapé. Puis moi, je mettais un peu en parallèle le fait que on s'est fait dire qu'il était trop handicapé pour vivre avant que j'accouche. Puis là, les formulaires qu'ils nous font remplir pour avoir accès à cette aide-là, financière, il faut prouver qu'il est assez handicapé. Fait que là, puis il faut cocher les bonnes cases. Là. Il faut être très agile. Ouais.
C'est les agents du même état.
Oui, exactement. Ouais.
Simon, le temps file. Il y a une autre question qui me taraude. Oui. Là, il y en a plus qu'une. Est-ce qu'il y a des handicaps au ciel?
Est-ce qu'il y a des handicaps au ciel? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Il n'y a plus d'obstacles à la vie en tant que tel, vu qu'on est pleinement dans la vie. Donc, il n'y a plus de handicap.
Non, il n'y a clairement pas de handicap au ciel.
Je pense que la réponse est évidente. Le ciel, tout est parfait. Hein? On est dans l'espérance d'avoir des corps glorieux, mais aussi des esprits, des cœurs glorieux. Parce que...
Je vais retrouver mes cheveux, c'est ça que tu es
en
train de dire?
Oui, bien, en tout cas, si c'est la meilleure version de toi-même...
Mais pas au purgatoire.
Il
y a Origène qui dit qu'au ciel, puisque la forme parfaite, selon les anciens, la sphère, nous serons tous des boules. Alors, certaines personnes se rapprochent plus ou moins
moi,
de la
forme
parfaite.
J'ai pris de l'avance.
La maternité, c'est la perfection.
Ah, exactement. Non, mais en fait, ce sera surtout un corps et un esprit mieux adaptés à la communion avec Dieu, avec tous les bienheureux. Donc, de fait, il n'y aura plus d'handicap. Par contre, il n'est pas impossible qu'il y ait des marques que nous avons portées, des handicaps dans notre vie sur Terre.
Comme
les stigmates du Christ. On sait que saint Thomas a touché les trous dans les mains de Jésus. J'ai vu des représentations de saint Pierre de Vérone, un dominicain qui a été martyrisé avec un coup de hache dans la tête. Mais souvent, ce coup de hache, on le représente avec une marque dorée sur la tête, comme pour représenter que c'est des signes de sa victoire, que sa croix, nos croix ont été des signes victorieux. Donc, peut-être que Cyril aura un élément de lui qui montrera que lui, il a vaincu, non pas malgré son handicap, mais par et à travers son handicap.
Une marchette avec des diamants.
Ouais, c'est ça, des cannes dorées.
Au fond, je pense que l'idée, c'est de reconnaître que c'est ça. On a tous, d'une manière ou d'une autre, une forme d'handicap, au moins de péché, de faiblesse, de vice dans notre vie. Et puis, l'idée, c'est pas d'être parfait tout de suite sur Terre, mais c'est de se réconcilier avec l'imperfection, avec nos limites, comme tu disais, Ariane, et de les utiliser. Les utiliser pour faire comme les saints que Benjamin nous a dit, là, pour devenir saint, d'entrer dans une communion plus grande avec Dieu.
Avant de se quitter, peut-être un petit truc, juste un ou deux petits trucs là, pour mieux inclure les personnes vivant avec une situation de handicap dans nos communautés, dans nos églises, Simon?
Oui, bien, il y a une dame qui s'appelle Isabelle Châtaignier en France qui est elle-même handicapée, qui travaille avec des enfants autistes et qui, dans ses trucs, dit aussi de s'intéresser beaucoup aux proches des personnes handicapées. C'est bien d'aller vers les personnes handicapées, d'entretenir une relation amicale et non seulement d'aidant avec ces gens-là, mais beaucoup les proches, parce que y a aussi, ça peut être difficile pour eux. Et elle va dire, par exemple, bien, si un proche est malade, ça se peut que la personne handicapée ne puisse pas venir à la messe. Donc là, c'est des fois, c'est en aidant le proche qu'on peut le plus aider la personne handicapée.
C'est intéressant.
Donc ça, c'est un point intéressant. Et autre point aussi, vraiment, elle va dire d'être persévérant et créatif. Parce que des fois, tu offres ton aide à une famille, un parent, une personne avec un handicap en chaise roulante. Et elle va d'abord te dire, non, ça va. Puis elle dit que ça peut être une réaction normale et naturelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle me dit non, fait que j'irai plus jamais, je ne ferai plus jamais rien pour cette personne-là ou aller l'offrir. Elle dit soyez persévérants, soyez créatifs et surtout liez-vous d'amitié avec ces gens-là.
Merci infiniment, Simon.
Ça fait plaisir.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@commercial-verbe.com.
Selon la tradition, on n'est pas du monde. Et avant de se quitter, allons-y de quelques suggestions culturelles sur le thème d'aujourd'hui, l'accueil des personnes vivant une situation de handicap. Et je commencerai tout de suite avec Florence. Qu'est-ce que tu nous suggères?
Moi, je vous suggère la lecture de la bande dessinée Le Petit Astronaute, qui est l'histoire d'une famille qui accueille un enfant qui naît avec une paralysie cérébrale. Ça déboussole complètement leur plan. Mais ils l'accueillent et l'intègrent dans leur famille. Et d'enfant, ce qu'on voit, c'est seulement leur réalité simple, les combats qu'ils doivent mener, mais c'est d'une beauté, c'est très émouvant.
Un roman graphique, une bande dessinée? Bande dessinée,
oui.
Ça s'appelle?
Le Petit Astronaute.
Merci beaucoup, Florence. Benjamin Boivin.
Ben oui, moi, je vous parle de La Baleine, ce film, The Whale en anglais, ce film qui est basé sur une pièce de théâtre, un film de Darren Aronofsky, qui est sorti en 2022, qui est un film, en fait, qui concerne une personne qui souffre d'une sévère obésité, qui est dans les derniers temps de son existence et qui cherche à se réconcilier avec sa fille, de laquelle il s'est séparé là, pour aller poursuivre une relation particulière. Donc, c'est un film dans lequel il se passe beaucoup de choses. C'est un film qui est très dur, donc il y a des représentations très intenses ou difficiles de c'est quoi que ça implique là, pour cette personne-là de vivre avec une obésité sévère. C'est un film qui est aussi très touchant. Là. Beaucoup de gens qui l'ont vu...
très bien accueilli par la critique, entre autres, pour l'interprétation de l'acteur principal.
Oui, c'est
Merci
ça.
Beaucoup, Benjamin. Ariane, à toi la parole.
C'est le livre qui est juste à côté de toi. C'est de Anne-Dauphine Julien, « Deux petits pas sur le sable mouillé ». Deux petits pas, pourquoi? Mais en fait, c'est Anne-Dauphine Julien, elle a eu deux enfants porteurs d'une maladie génétique assez grave. Et elle s'en est rendue compte avec sa première fille parce qu'elle apprenait à marcher, puis elle marchait sur le sable. Et ses pas étaient un petit peu anormales. Ses chevilles étaient légèrement courbées. Donc, ils sont allés chez le médecin. Et alors là, le verdict est tombé. Maladie extrêmement grave, espérance de vie très réduite, très peu de traitements, maladie très rare aussi. Et donc, dans plusieurs livres, elle raconte tout leur parcours, oui, aussi médical, mais leur parcours de vie familial, comment ça s'est passé avec ses autres enfants, son mari. Et donc, c'est un témoignage qui fait pleurer parce que ben, le dénouement, non, il est pas facile parce qu'elle a dû finalement dire adieu à deux de ses enfants dans des vies relativement courtes. Sa première enfant a vécu quelques années, sa deuxième, elle a vécu jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, je crois. Mais c'est aussi un parcours de joie, un parcours où elle a beaucoup grandi, elle a pu approfondir sa foi. Et c'est un parcours où on rentre vraiment dans l'intime de sa vie. Donc ça permet aussi de comprendre ben, qu'est-ce que peut vivre une famille qui est touchée par une maladie grave ou par des handicaps et comment est-ce qu'on peut, on peut comprendre cette vie, le sens de cette vie aussi.
Qui est pas, c'est ça, une vie qui n'est pas dénuée de sens pour autant, même si
la souffrance pas dénuée de sens du tout.
Est bien présente, bien visible. Merci beaucoup, Ariane. Je rappelle le titre, « Deux petits pas sur le sable mouillé », dis-je, c'est par Anne-Dauphine Julien. Et c'est une édition de poche, mais j'imagine qu'il y a...
Oui, ça se lit bien.
Ça se lit bien. Merci beaucoup, Ariane. Simon.
Alors, je vous propose de revoir un film que vous avez sûrement déjà vu, qui est drôle et touchant, « Intouchable ». avec entre autres l'acteur Omar Sy, donc qui raconte la vie de Philippe Pozzo di Borgo. Donc c'est une histoire vraie, hein, qui était un homme d'affaires de la noblesse corse, mais qui suite à un accident de parapente, hein, il semble que lui avait
On a les loisirs qu'on
peut. Donc il est devenu paraplégique et bon toute la relation avec son aidant, son auxiliaire de vie, et aussi il a écrit un livre qu'il faut lire, sur lequel est basé le film. Le livre s'appelle le livre de sa vie au fond, Le Second Souffle, qui est paru en 2001. Des choses qu'on sait moins de Philippe Pozzo di Borgo, c'est qu'il a été un grand militant contre l'euthanasie toute sa vie. Je dis toute sa vie parce qu'il est décédé il y a quelque temps, au mois de juin dernier. Il avait aussi une vie spirituelle. Il est allé plusieurs fois en pèlerinage à Lourdes. Et aussi, si on veut approfondir la thématique de comment mieux accueillir en Église les personnes handicapées, il a fait une intervention vraiment intéressante auprès de l'Église catholique en France, qu'on peut trouver facilement sur Internet, qui s'appelle « Avec un handicap passionnément vivant ». Et il n'y va pas de main morte, il interpelle vraiment l'Église à faire plus pour intégrer pleinement les personnes handicapées.
T'es en plein dans le thème de l'émission d'aujourd'hui.
En plein dans le thème, j'ai réussi ma
recommandation. C'est dur d'être plus dans le mille. Okay. Merci, merci beaucoup, Simon. Et ben, j'en profite pour remercier tous les chroniqueurs de l'émission d'aujourd'hui, Ariane, Benjamin et notre invitée Florence. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous invite à partager largement cette émission sur vos réseaux sociaux. Et on se dit à très bientôt pour une autre émission d'On n'est pas du monde.